dans la cour des grands. Une émission réalisée par les élèves du collège Jacques Prévert de Pont-Vallin. Bienvenue dans la cour des grands pour, vous l'aurez compris, une spéciale Noël. On vous accueille dans cette émission avec, vous l'aurez reconnu certainement, le morceau de Mariah Carey, I Want For Christmas Is You, chanté et interprété par Dolcé, Lilou, Maëlan, Chloé et à la technique, Maëlwen et Eva. Cette spéciale Noël est un peu plus longue que d'habitude, puisque vous allez entendre deux contes, le cadeau du Père Noël et le casse-noisette, un échange entre les radioteurs à propos de la première lecture, le cadeau du Père Noël. Il y aura aussi une discussion autour des traditions de chacun au moment de la veillée de Noël. Et enfin, Dolcé et Maëlwen vous proposeront deux recettes sucrées, simples, mais qui en jettent. L'intégralité de cette émission sera postée sur radioprévert.fr, toujours dans la rubrique « Dans la cour des grands ». Ce spécial Noël a été réalisé en plusieurs étapes avec la participation de Maëlan, Maëlwen, Chloé, Dolcé, Julien, Margot, Eva, Lilou, Ethan, Steve et Marion Vendée pour la réalisation. Merci à toute l'équipe de radioteurs qui a participé depuis le début de l'année à la création de toutes ces émissions. Je vous souhaite à tous et à toutes un très bon Noël. Et je vous invite également à écouter l'émission Popcorn qui est dédiée au 4e et au 3e. Elle sera diffusée le mercredi 8 janvier à 16h et elle portera sur les ateliers BD qui ont été réalisés par Pauline Aubry au collège Jacques Prévert de Pont-Vallin.
Le cadeau du Père Noël, Mélanie de Coster. Cette année-là, les lutins avaient décidé de faire une surprise au Père Noël. Lumia avait lancé l'idée, un soir, tandis qu'elle était tous réunis pour trier les lettres envoyées par tous les enfants du monde. Il avait pour mission de les ranger dans différents casiers, après que le Père Noël les ait lus. C'était un travail qui leur prenait beaucoup de soirées et les lutins avaient alors bien le temps de discuter. Ils se rapportaient les petits événements de la journée, les facéties des reines qui sont très blagueurs comme tout le monde le sait.
Ce soir-là, pourtant, les conversations habituelles manquaient d'il y a juste Castorine qui chantait vive le vent dans un coin. C'est le Père Noël. C'est un vrai qui apporte des cadeaux chaque année et qui n'en reçoit pas beaucoup en retour. Les lutins regardèrent et acquisèrent tout en même temps que c'était une très bonne idée que Lumia avait eue. Même Cabriole, toujours extravagant, fit un saut périlleux sans oublier de faire sonner l'une contre l'autre les clochettes qu'il portait à ses pieds. C'était une très bonne idée, mais quelle surprise ferait plus plaisir au Père Noël. Des exclamations qui faisaient dans tous les coins, on faisait entendre des mots. Il faut dire que le Père Noël est un grand gourmand. C'est sans doute pour cette raison qu'il est si gros. Cependant, ses idées n'avaient rien de très original. Lumia voulait offrir au Père Noël un cadeau qu'il n'avait jamais encore eu. Un cadeau qu'il ne soupçonnait même pas pouvoir recevoir un jour. Comme il ne trouvait rien, ils décidèrent d'attendre quelque temps, et en observant le Père Noël pour comprendre ce qui pourrait manquer de sa vie.
Comme c'était peu de temps avant Noël, le Père Noël était très occupé. Il devait ressortir son costume rouge de son armoire, vérifier qu'aucun bouton ne manquait, et qu'il était toujours à la bonne taille. Nettoyer le traîneau et bichonner les rênes, surveiller la préparation des sacoches. Il était tellement absorbé qu'il brûla plus d'une fois son repas pendant la semaine. C'est quand il décida de ne plus manger que des repas froids jusqu'à Noël que les lutins comprirent enfin ce qui lui manquait. Les jours suivants, en plus de leur travail, ils se réunissaient dès qu'ils le pouvaient pour préparer leur grande surprise. Le Père Noël ne se doutait de rien. Cependant, il les trouvait particulièrement distraits. Arriva enfin la veille de Noël. Les cadeaux chargés sur le traîneau et les rênes attelées, le Père Noël s'apprêtait à partir. Tous les lutins étaient réunis devant la porte de l'atelier pour lui faire de grands signes d'encouragement au moment du départ. Dès qu'il fut envolé et le traîneau disparut dans le ciel, les lutins se précipitèrent de tous côtés. Flocon, le plus âgé de tous les lutins, ainsi que Lumia, montèrent sur les rênes de réserve. Ce n'était pas le plus rapide ni le plus costaud. Les plus forts étaient déjà partis, distribuer les cadeaux. Mais quelle importance! Ils n'avaient qu'un petit trajet à faire, juste un aller-retour.
Au matin, quand il revint sur la pointe des pieds pour ne pas réveiller les lutins qui croyaient endormis, le Père Noël eut le plaisir de sentir une bonne odeur de biscuits et de chocolat chaud provenant de sa cuisine. Il sourit, croyant déjà avoir compris pourquoi ses amis lutins étaient si étourdis ces derniers temps. Pourtant, ce n'était pas ce que les lutins lui réservaient. Quand il entra à la cuisine, le Père Noël eut la surprise d'y trouver, assise dans un fauteuil à bascule, un châle sur les genoux, une femme aux cheveux blancs qui souriait en dormant. Étonné, il s'avança jusqu'à elle, il avait l'impression de la connaître.
Entendant chuchoter derrière lui, le Père Noël se retourna pour découvrir tous les lutins réunis. L'air très très heureux, « Papa Noël !» dit Lumia. « Voici notre mère Noël. Ainsi, vous ne serez plus jamais seule. Et elle vous préparera tous les petits plats que vous aimez tant. Vous la reconnaissez, n'est-ce pas ?» Au son de ses voix, la future mère Noël s'éveilla. Quand elle ouvrit les yeux, le Père Noël réalisa enfin qui elle était. C'était elle, l'enfant qui, auparavant, lui avait envoyé la première lettre de Noël. Dès qu'elle sourit, le Père Noël tomba amoureux de la femme qu'elle était devenue. Ils se marièrent un peu plus tard. Les lutins furent tous invités, bien sûr. Depuis ce jour-là, Mère Noël et Père Noël ont pour enfants tous les enfants du monde.
Ho, ho, ho! Merry Christmas, everybody! Merry Christmas!
Autour de cette table pour nous raconter cette histoire de Noël, nous avions Margot, Dolcé, Maëlwen et Julien.
Bonjour.
Et moi-même, Marion.
Bonjour.
Bonjour.
Est-ce qu'on peut discuter de cette histoire un petit peu ?
Moi,
il y a
oui.
des petites choses que j'ai bien aimées dans cette histoire et puis il y en a qui m'ont moins plu. On en a discuté un petit peu entre nous avec Margot et avec Julien de cette histoire. Margot, est-ce que tu voulais dire quelque chose ?
Bah, j'aimerais bien vous poser des questions. La question, c'est est-ce que vous trouvez que vers la fin, c'était un peu, sans vouloir être grossière, misogyne ?
Alors, qui veut répondre ?
J'ai pas compris. Je sais pas ce que ça veut dire,
misogyne. Alors, est-ce que tu peux expliquer, Margot, ce que ça veut dire, misogyne ?
C'est comme si on disait la place de la femme, c'est la cuisine.
Moi, je trouve qu'effectivement, cette histoire, elle est un petit peu... Alors, si on est féministe, elle est pas très... elle met pas la femme à l'honneur. Parce que le cadeau du Père Noël, c'est quand même une femme. Bon, c'est un peu bizarre de recevoir une femme en cadeau. Et une femme qui lui fait la cuisine.
Bah, ça fait un peu boniche entre parenthèses.
Ouais.
Moi, ça me donne un petit peu cette impression, effectivement. Ça me donne un petit peu l'impression que, voilà, elle fait pas à manger pour faire plaisir au Père Noël, mais un peu, elle a été choisie pour lui faire à manger.
Après, moi, ce que je me suis dit, c'est que bah, le Père Noël, il l'aimait quand même. Enfin, et elle aussi, parce que quand il est tombé amoureux, bah, ils se sont embrassés tous les deux. Donc voilà.
C'est vrai, ils sont tombés tous les deux amoureux.
In love.
Après, moi, je suis un peu d'accord, mais après, si le livre il était en 2017, et en 2017, il y avait déjà des choses féministes. Et peut-être qu'il voulait pas vraiment faire ça.
Il voulait pas vraiment faire quoi ?
prendre une femme comme ça, enfin pour faire l'esclave, tout ça. Peut-être que c'était plutôt pour l'amour ou je sais pas.
Oui, c'est un petit peu étrange parce qu'effectivement le livre il a été édité en 2017 et en plus l'auteur, tu l'as dit, Maëlwen, c'est une femme, donc il a été écrit par une femme. Alors, on peut un peu se poser des questions, savoir comment elle entrevoit l'amour entre un homme et une femme. On peut se poser des questions.
Moi, je pense que lui donner des cadeaux à une femme, c'est beau parce que l'amour, c'est un gros cadeau. Et c'est pour ça qu'ils l'ont donné à la mère Noël. Elle s'est choisie la mère Noël parce qu'elle est... Comment se disait les
lutins.
Les lutins. Les lutins ont choisi la mère Noël parce qu'elle était déjà amoureuse de lui. Il voulait lui donner le gros amour que peut lui donner un homme, que c'est le Père Noël. Et c'est pas un esclave parce qu'elle aime la cuisine. Elle aime faire les biscuits, du chocolat pour le Père Noël. Et c'est donc pour ça que je pense pas que c'est féministe.
Je suis d'accord avec toi, Julien.
Ouais, c'est vrai que ils n'ont pas choisi une femme par hasard. Ils ont choisi la Mère Noël, qui était la première jeune fille à qui le Père Noël a fait un cadeau. Et on peut supposer que la Mère Noël était déjà très amoureuse du Père Noël depuis très longtemps.
Moi, je trouve que vous avez tous très bien lu.
Merci.
Voilà.
Merci.
Merci. Dolcé, c'est comme ça. Tu vois l'histoire un peu comme Julien ?
Oui.
Je pense pas que l'histoire était comme ça, mais je vois un peu le même avis avec Julianne. C'est que moi, je pense que c'est surtout qu'ils lui ont demandé ou des choses comme ça. Enfin, je pense, demander, c'est pas dans le livre, mais peut-être qu'elle pensait comme ça.
Donc elle était consentante.
Oui.
Et toi, du coup, Maëlan, qu'est-ce que t'avais comme petite question ?
J'avais juste une question. C'est l'histoire du Père Noël. J'ai envie de dire, c'est un peu logique, le Père Noël et les lutins préparent les cadeaux. Pendant que le Père Noël va faire la tournée, et la femme va préparer à manger. C'est un peu logique.
Oui, je suis d'accord avec toi. Ouais.
Pourquoi ça serait logique ? Pourquoi ça serait à la femme de faire à manger et au Père Noël de faire des cadeaux ? Est-ce que tu vois, si tu étais la Mère Noël, tu n'aurais pas envie aussi de faire des cadeaux et puis te dire, tiens, Père Noël, là j'ai fait ma journée de cadeaux, est-ce que tu pourrais pas faire à manger cette fois-ci ?
Non, parce que moi j'adore faire... la cuisine, donc...
Moi, c'est que pendant qu'il prépare ses cadeaux, normal, c'est assez dur. Et c'est un peu logique. Moi, c'est ce que je pense. C'est un peu logique pendant qu'il y en a un qui travaille, l'autre, il va faire à manger. Parce que, imaginons, le Père Noël, il rentre à, 3h du matin.
Pas même plus, hein.
Même plus, oui. Il devra faire tout le monde. Et bah, du coup, c'est compliqué pour lui. Donc, il faudrait bien aussi que la femme, du coup, elle prépare à manger.
Et est-ce peut-être... que c'est du travail de faire à manger ?
Bah non, il suffit juste de faire chauffer quelque chose.
Julianne, est-ce que c'est du travail de faire à manger ?
Ah, c'est trop compliqué. C'est faire... Bon, ça dépend de la chose que tu vas faire. Si c'est de pizza ou si c'est de burger, ça fait beaucoup de travail. Parce que moi aussi, je cuisine. Et des biscuits, ça fait beaucoup de longtemps. À part faire la masse et tout, ça fait beaucoup des heures.
Mais après, il y a aussi du plaisir à faire à manger si elle aime bien. Mais du coup, Julien, qu'est-ce que tu fais souvent comme petit gâteau, des biscuits comme biscuits?
Beaucoup de fois, c'est ma mère qui le fait, mais quand c'est moi, je fais des gâteaux de citron, de chocolat, des carottes, et beaucoup, peu de fois, je fais des biscuits avec ma mère.
Ah, trop bien.
Parce que ma mère, elle m'enseigne comment le faire les choses, parce que je vois un tutoriel dans YouTube et je fais beaucoup de bêtises, donc ma mère, elle m'aide à trouver qu'est-ce que je dois pas faire.
Moi aussi.
Et ça me fait beaucoup de plaisir faire de cuisine.
Moi aussi.
Je pense que Julien va nous rapporter un gâteau pour Noël.
Moi, après, il y a aussi un truc, un petit défaut dans l'histoire, c'est que à 3h du mat, même plus, moi, je sais pas, mais ma mère, elle est fatiguée, donc elle a pas que ça à faire de préparer à manger.
Après, oui, c'est une histoire, donc peut-être que c'était pas à 3h du matin, le Père Noël, je sais pas, il fait sa magie, il claque les doigts comme je sais pas comment elle s'appelle.
Joséphine,
voilà. Et c'est un livre, donc je pense que voilà. Elle voulait pas, c'est pas à 3h du matin.
Voilà, c'est aussi une histoire pour nous faire rêver un petit peu, pour partager un petit moment de rêve. Est-ce que cette histoire vous a plu ?
Oui, beaucoup.
Merci à toutes et tous d'avoir accepté cet échange. On va maintenant passer au Noël traditionnel.
Je suis accompagnée de Julianne. Bonjour
Julianne.
Margot.
Bonjour.
Ambre.
Bonjour.
Bonjour. Yuna.
Bonjour.
Chloé.
Bonjour.
Et à la technique, nous avons Lilou qui nous fait coucou. Alors, on avait envie de vous parler de chacun de nos traditions, puisqu'on s'est rendu compte en échangeant qu'on passait tous des Noëls très différents. Julianne, qui a vécu au Costa Rica, va nous parler des traditions du Costa Rica. Margot a une tradition un peu particulière dans sa famille, on aura l'occasion de revenir dessus. Et puis moi, je voulais vous parler du Noël traditionnel que j'ai vécu en Autriche. Ambre voudrait nous parler de... Tu veux nous parler de quoi, Ambre ?
Bah moi, par exemple, l'année dernière, j'habitais dans un restaurant dont mon père était le patron et on faisait des repas de Noël.
Donc tu veux parler du repas de Noël que vous faisiez avec les convives, avec les clients du restaurant.
Les clients et la famille parfois.
D'accord. Et Yuna ?
Moi, c'était surtout sur la famille, les repas de Noël avec mes grands-parents et mes parents. Et...
Chloé, tu voulais parler de quoi ?
De tout ce que je fais pour préparer Noël et ce que je fais le jour de Noël avec ma famille.
D'accord. On commence par justement les préparations. Alors, en Autriche, on prépare longtemps à l'avance Noël. On fait ce qu'on appelle des kekse. Les kekse, c'est des petits gâteaux secs. Donc, on fabrique plein de petits gâteaux, chacun dans nos cuisines, en fait. Et je ne sais pas si vous voyez un peu les boîtes de gâteaux, les calèches. Vous savez, les assortiments de petits gâteaux. Mmh. Et bien en fait, en Autriche, ça ressemble un petit peu à ça. On fait plein de petits gâteaux qui sont aromatisés aux épices, avec de la cannelle, avec de l'anis, avec du chocolat, de la confiture. C'est en forme d'étoiles, en forme de cœur, en forme de plein de choses. Et on fait par exemple 3, 4, 5 variétés de petits gâteaux. Nos voisins font aussi la même chose. On va faire 30-40 gâteaux et on va échanger nos petits gâteaux. Et arrivé au soir de Noël, on va avoir plein d'assortiments de petits gâteaux qu'on aura échangés avec nos voisins. Nos voisins, nos voisines, la famille et tout ça. Et comme on va manger très très riche le soir de Noël, avant ça en fait on fait un petit régime le mois qui précède Noël et on mange du pain d'épices. Mais qui est très léger en fait. Donc tout le mois qui précède Noël, en fait, traditionnellement, on fabrique du pain d'épices qu'on va manger avant Noël. Et le soir de Noël, c'est plein de petits gâteaux différents pour le dessert. Et toi, Chloé, alors, comment tu prépares Noël ?
Moi, par exemple, quand je suis avec ma maman, on fait le sapin que avec ma sœur, donc toutes les deux. On fait aussi une crèche où est-ce qu'on met le Jésus. Mais Jésus, on met le soir de Noël, le 25, à minuit.
Margot, qu'est-ce que tu fais, toi, pour le réveillon ?
C'est une tradition, on peut dire. C'est que la veille de Noël,
donc le
24 soir, vers les 23h minuit, on coupe une mèche de ses cheveux et on le met dans le sapin, enfin sur le sapin. Et mon père, il va se raser, donc je sais pas comment il va faire, mais il a dit qu'il allait mettre une perruque qui va couper ses cheveux de la perruque.
Parce qu'il a pas de cheveux, ton papa ?
Il va se couper les cheveux, c'est pour ça.
D'accord. Mais alors attends, Margot, ça sert à quoi cette mèche de cheveux que vous coupez et que vous mettez dans le sapin ?
Ça veut dire plutôt... Petit frère, il croit au Père Noël, donc c'est plutôt... pour dire que le Père Noël, il s'est pas trompé de personne ou un truc, je sais même plus comment ça s'est arrivé.
Ça veut dire que le lendemain matin, il n'y a plus de cheveux dans le sapin ?
Oui. Et mon autre tradition, c'est que mon petit frère et moi et ma sœur, on fait un gâteau, mais sans la recette. Du coup, à la fin, quand on a tous nos cadeaux, avant d'ouvrir les cadeaux, on doit manger le gâteau qu'on avait fait.
Sans recette, c'est-à-dire que vous avez improvisé un gâteau ?
Voilà. Ma sœur, elle me dit, par exemple, mettre de la farine 15 grammes, par exemple, mais c'est pas beaucoup. Mon petit frère me dit de mettre des œufs, enfin, tout ça.
Et c'est bon ?
La dernière, c'était écœurant. Et j'ai un peu peur pour cette année-là.
Ambre, alors comment ça se passe le repas de Noël ?
Alors, déjà, les clients prenaient une réservation 2 semaines à l'avance. Et par exemple, le menu qui a été le plus commandé, c'était l'assortiment de Noël. C'était une tartiflette avec au lardon ou sans, à la demande. Avec en entrée, je crois, de la salade. Puis en plat, la tartiflette, avec aussi de la salade. Ensuite, on mangeait du fromage de chèvre, du reblochon et du camembert. Puis pour le dessert, c'était une sorte de coupe glacée, avec de la chantilly et soit du coulis de chocolat ou de caramel. Et par exemple, l'année dernière, on avait mis beaucoup de petits mondes animés. Y a des piles et quand on l'allume, ça s'illumine et les personnages y prennent vie. Et du coup, on en avait fait tout un endroit et on avait mis quelques bonbons à manger à disposition. Et du coup, tout le monde s'était bien amusé et du coup, tout le monde était content.
Alors, qu'est-ce que c'est les petits personnages animés ?
Par exemple, le tout premier qu'on a eu, c'était un sapin. Avec au bout, il y avait un Père Noël sur son traîneau et il tournait. Et on avait un petit train qui passait dans un tunnel et qui retournait avec des petits enfants qui sont sur un pont.
Alors ça veut dire que toi, Ambre, tu passes Noël en fait avec pas avec ta famille, mais vraiment plus avec des clients, avec beaucoup de monde en fait autour de toi.
Oui. Et là, cette année, j'ai déménagé, donc cette fois, je vais le passer Noël avec ma famille. Et comme mes parents sont séparés, je vais passer le 24. Avec mon père, puis le 25 au matin, j'irai chez ma mère.
Et c'est quoi l'ambiance en fait dans un restaurant le 24 décembre ? Les gens sont contents d'être...
Alors les gens sont très contents, ils viennent plus au plus tard, ils viennent vers 22h. Et du coup, ils fêtent Noël, on a mis un sapin à leur disposition. Et du coup, il y avait plein de cadeaux que les clients ils avaient. Et du coup, ils les ont tous ouverts dans le restaurant.
C'est sympa. Alors toi, Yuna, du coup, c'est complètement différent. Toi, tu fais Noël vraiment en famille.
Oui, par exemple, en général, quand on va acheter un peu, déjà on achète en avance par rapport... à la fête. Et on y va en général en famille, on va chercher le sapin. Et quand on revient, on décore en famille aussi. Et le jour du repas, en général, on fait tout le temps ça en famille, regroupé. Et à chaque fois, en fait, il y a un peu... Ça dépend des fois, mais parfois, il y a des cadeaux, entre guillemets, cachés sous les chaises. Et en fait, on... Chez mes grands-parents, on dit un peu que ça porte bonheur pour la suite, entre guillemets.
Donc sous les chaises, pas sous le sapin, sous les chaises.
Voilà, c'est un peu...
D'accord. Donc du coup, vous avez les cadeaux à table ?
En fait, on en a quelques-uns à table et le reste, en général, par exemple, les cadeaux un petit peu plus grands, eh ben, on les a en dessous du sapin.
Ah oui, c'est vrai qu'il faut que ça passe sous la chaise. Et alors toi, Juliane, comment ça se passait Noël au Costa Rica ?
Au Costa Rica, on commence la journée, le 24 de décembre, on fait une célébration au la naissance de Jésus. Mmh. Et la tradition, c'était de partager avec la famille tous les sentiments et les émotions de la fin de l'année, avec des poulets, des choses comme ça, des gâteaux géants. Mais géants, je veux dire grands, pas de la taille d'une maison ou des choses comme ça, pas exagéré. Et avec de la glace et des choses avec beaucoup de sucre. Ça change pas beaucoup parce qu'il y a un sapin avec des couleurs et des lumières, avec une étoile dans... J'ai oublié le nom.
En haut du
sapin. À la tête du sapin.
Ouais.
Et à la fin du 24 de décembre, on se met les cadeaux de Père Noël. Mais au Costa Rica, la spécialité, c'est qu'au 24 de décembre, à 10h de la nuit, à 21h ou des choses comme ça, on fait des voitures géantes avec des formes de Papa Noël, de sapin et des animaux de Costa Rica pour que ça soit... Ça, c'est la représentation du Costa Rica. Et aussi des personnes qui dansent, qui lancent de feu, des choses comme ça pour la célébration. Et bon, avec notre famille, c'est pas comme ça, parce qu'on n'est pas en Costa Rica, donc on ne peut pas avoir ces choses. Mais on fait les mêmes traditions, on a maison.
Donc c'est un peu un défilé de chars, ce qu'on appelle des chars.
Oui,
un défilé. Des grosses fêtes.
Désolée si j'ai oublié le mot, mais mon vocabulaire, c'est terrible.
D'accord. Donc, il y a aussi le Père Noël au Costa Rica.
Oui, il y a le Père Noël.
La tradition du Père Noël aussi.
Oui.
D'accord. Donc, il y a quand même, dans tout ce qu'on raconte là, Noël, c'est quand même beaucoup sucré. On se fait plaisir avec beaucoup de sucreries. Tu nous dis, il y a des gâteaux très sucrés. Ambre, tu nous parles des glaces.
Oui.
On sent que voilà, Noël, c'est vraiment le moment où on se fait tous plaisir en famille, je crois que... Et toi, Chloé, aussi ?
Oui, surtout le dessert.
Surtout le dessert aussi ?
Ouais.
Et qu'est-ce que vous aimez, justement ? Alors, Margot, tu nous disais que vous faisiez un gâteau un peu magique, un gâteau surprise, dans tous les sens du terme. Qu'est-ce que vous aimez manger pour le dessert, chacun ? Juliane ?
Oh, pour moi, c'est compliqué parce que moi, j'ai laissé le sucre, les choses avec du chocolat, de la glace et tout, donc c'est compliqué pour moi. Mais pour la fin, pour le dessert, je mange les biscuits que fait ma mère, que c'est presque l'unique chose que je mange avec du sucre. Donc, je fais une exception pour ça parce que ce sont délicieux.
Moi, c'est avec ma soeur, on fait ça. On a la recette. C'est des biscuits à la cannelle où on met de la chantilly dessus. Et on referme avec l'autre biscuit à la cannelle. Du coup, on fait un peu un sort de sandwich à la cannelle avec de la chantilly dedans.
Moi, ce que j'adore, mais que j'adore vraiment beaucoup, c'est la bûche de Noël à la noisette. En fait, c'est mon grand-père qui fait ça. Et chaque Noël, comme j'adore ça, il fait une bûche glacée. Cette année, l'année dernière, c'était le citron. Et il y avait une bûche de Noël à la noisette. Donc, il y avait des éclats de noisettes, des noisettes entières sur le dessus. Et il y avait tout saupoudré de chocolat. Et à l'intérieur, il y avait une genre de... comme de la mousse au chocolat quand on la remue. C'était trop bon.
Et donc, c'est ton grand-père qui fait ça ?
Oui.
Donc, vous êtes une famille de restaurateurs, de cuisiniers, en fait.
Oui. Alors, en fait, je fais un Noël une année sur deux. Je fais une année chez mon père, une année chez ma mère. Et l'année dernière, c'était chez ma mère. Et du coup, y a mon grand-père qui est, lui, cuisinier aussi. Il adore faire de la pâtisserie.
Et toi, Yuna, du coup ?
Moi, avec ma famille, ce qu'on adore en dessert la plupart du temps, c'est les bûches de Noël. Et en général, c'est y en a deux. Il y en a une au chocolat, vanille, etc. Et l'autre, en général, c'est plus un peu exotique, si on peut dire comme ça.
Moi, c'est tout le temps à Noël, c'est une bûche glacée au chocolat.
Eh bien, moi, c'est pareil, je fais des glaces. Donc, à Noël, ce que j'aime le plus faire, c'est des glaces à la mandarine avec du chocolat.
Oh! C'est trop bon ça.
Je peux venir chez vous ?
Je sais pas, on va peut-être échanger la glace à la mandarine avec les petits gâteaux à la cannelle, Margot.
J'ai oublié de dire que je mettais aussi du chamallow dedans, grillé.
Dans le gâteau à la cannelle ?
Oui, avec la chantilly. On mettait aussi des marshmallows, grillés ou pas, c'est ce qu'on veut.
D'accord.
Comme ça, c'est plus moelleux, ça fait du bien.
Et aussi, on ouvre tous les ans, sans exception, les cadeaux en pyjama.
Ah ouais, il faut pas être habillée chez vous pour...
Non.
Non.
Que en pyjama.
Pourquoi?
Pareil.
Parce que c'est comme ça.
C'est votre tradition?
Ouais, même le soir, le 24, à minuit, cette année, je vais mettre mon pyjama.
Donc vous aimez ça, Noël, tous?
Oui.
Oui. Oui.
Et en Espagne, Noël en Espagne, il est proche de celui de la France?
Bah, c'est la première fois que je fais une fête de Noël ici, mais je sais pas comment ça va se passer ici en France. En Espagne, c'était presque la même chose qu'au Costa Rica, mais les fêtes, c'était moins joli. Il y avait seulement des personnes en train de faire des danses et des choses comme ça. Et puis, les personnes, les adultes et tout, vont boire beaucoup du vin à 11h de la nuit, des heures comme ça. Et en France, je ne sais pas comment ça va être, mais je vais être avec ma famille.
C'est ça que j'ai oublié de dire aussi, en Autriche, la préparation de Noël, je crois, est plus importante quasiment, enfin, est aussi importante que le réveillon de Noël. Et il y a ce qu'on appelle, un peu comme à Strasbourg, en Alsace, en Allemagne, il y a tous les marchés de Noël. Alors, ça n'a rien à voir avec les marchés de Noël qu'on voit par chez nous. C'est vraiment des grands marchés et c'est un lieu, c'est un peu comme un bar, en fait, mais de nuit, à ciel ouvert, où tous les Autrichiens aiment à se retrouver pour, voilà, avec des gros manteaux, bien au froid, pour savourer un vin chaud, pour se retrouver ensemble en famille et discuter, faire une veillée, en fait, dehors. Ça, c'est très important aussi chez eux là-bas. Je vous remercie tous pour nous avoir fait partager votre Noël traditionnel et cette magie, cette féerie en fait qu'on attend tous avec impatience. Merci à tous.
Ah, je vous en prie.
Merci. Au revoir.
Joyeux Noël à tous.
Joyeux Noël. On vient d'échanger autour de ces traditions de Noël et de nos recettes de cuisine. Et maintenant, nous recevons Dolcé. Bonjour Dolcé.
Bonjour.
Et Maëlwen.
Bonjour.
Rebonjour, parce que vous avez raconté aussi l'histoire du Père Noël.
Oui, oui.
Et là, on vous retrouve pour justement des recettes que vous aimez faire sucrées pour le réveillon de Noël.
C'est ça.
C'est ça. Alors, vas-y, Dolcé.
Alors, moi, je fais des tablettes de chocolat fantasy.
Qu'est-ce
Donc,
que c'est
En fait, on prend plein de tablettes de chocolat en magasin. Par exemple, des blanches, des noires, des marrons. Et on va les mettre au four 3 à 4 minutes. Je crois que le four, c'est 180 degrés.
On les met en four dans un bol comment
dans,
ça dans
une... Sur une plaque. Sur une plaque.
Sur la plaque de ton four, ta plaque de cuisson.
Voilà.
Ouais.
Je mets du papier cuisson en dessous et ça chauffe. Après, on peut faire des graphismes avec notre fourchette pour que le chocolat il se mélange et tout ça, pour que ça fasse plus joli.
Une fois que tu as fait fondre ton chocolat?
Oui. Après, je rajoute par exemple des feuilles d'or. Des perles, des M&M's, des Smarties, des chamallows, ben on peut rajouter plein de trucs comme ça. Et dessus, souvent, moi, je mets un coulis de caramel en plus.
Alors, tu poses tes feuilles d'or sur ton chocolat?
Oui.
Que tu as mélangé au préalable? C'est ça, tu as tes plusieurs plaques de chocolat de couleurs différentes?
Oui.
Que tu fais fondre?
Ouais. Et comme ça, après, c'est liquide, donc je peux mélanger, je peux faire des graphismes avec ma cuillère.
D'accord, tu mélanges les couleurs entre elles.
Voilà,
ouais.
Et du coup, après, je mets chamallow et tout ce qui s'ensuit. Et après, j'offre ça à Noël pour ma famille.
Super. Et toi, Maëlwen?
Moi, c'est des petits sapins de meringués. Et donc, il y a 100 grammes de sucre. Il y a deux blancs d'œufs, du colorant alimentaire vert. Donc, on met tout ça dans le robot, les blancs d'œufs. Mmh. Après, on met le sucre petit à petit. Et on mélange tout ça. Et après, il faut que ça fasse un bec de canard.
Tu mets en meringue, en fait. Tu fais une meringue,
voilà.
Et ça se fait un bec de canard quand ta meringue est bien prise.
Et après, on prend la plaque de papier cuisson. On met du papier cuisson. Et on poche nos petits sapins en faisant trois petites boules superposées. Après, on met à chauffer au four pendant 1 heure à 110 degrés. Et une fois que c'est cuit, on met les petites décorations de Noël. Des perles en sucre, étoiles et des petites billes.
Donc tu fais une forme de sapin. Tu fais
oui.
Trois petites boules de
ouais.
Trois tailles différentes.
Oui.
D'accord.
C'est quoi le bec de canard?
C'est quand on relève le fouet, il faut que ça fasse une petite pointe au bout du fouet avec la préparation.
Okay. Oui, ça indique que ta meringue est bien prise.
Ok.
Et ça, tu le sers comme ça en petite décoration sur un gâteau?
Moi, je les sers avec des petits paquets à offrir à Noël.
D'accord, super. Merci.
De rien.
De rien.
Au revoir.
Au
le casse-noisette, enchanté. À la lecture, Lilou, Juliane, Maëlan, Steve et Marion. Ce conte est extrait du livre des plus belles histoires paru en 1987. La musique provient du casse-noisette de Tchaïkovski, interprété par l'Orchestre national du Bolchoï. Et pour les enrobés sonores, les sons sont extraits du site internet sandino.com.
Il était une fois deux enfants, Clara et son frère Franz. Chaque année, ils attendaient la visite de leur oncle Johann, qui passait toujours le soir de Noël pour leur offrir des cadeaux magnifiques. Leur oncle était fabricant de jouets.
Peut-être viendra-t-il plus vite si nous fermons les yeux en pensant à lui très fort,
dit Clara.
C'est complètement stupide,
répondit Franz.
Essayons quand même,
dit Clara. Ils fermèrent les yeux en les serrant de toute leur force et en pensant très fort à l'oncle Johann. Aussitôt, on entendit sonner à la porte.
« Ça a marché !»
s'écria Clara. Tandis que l'oncle Johann entrait en riant et en secouant la neige qui était tombée sur son manteau.
« Bonjour les enfants !»
s'exclama-t-il en les serrant tous les deux dans ses bras.
« Je vous ai apporté des cadeaux !» Ouvrez-les vite!
Il donna un paquet à chacun des deux. Dans celui de Franz, il y avait un magnifique bateau en bois avec une belle voile rouge. Et dans celui de Clara, un patin aux longues jambes vêtu d'un uniforme de soldat.
Qu'est-ce que c'est?
Demanda Clara.
Un casse-noisette!
Répondit l'oncle Johann.
Regarde!
Il prit une noix, les mit dans la bouche du soldat, rapprocha ses deux longues jambes en les serrant. Crac ! La coquille se brisa en deux. Oncle Johann sortit la noix et la lança dans la bouche de Clara qui bondit de joie.
Oh ! Quel jouet merveilleux, oncle Johann ! C'est la première fois que je vois un casse-noisette de ce genre.
Elle se mit à danser autour de la pièce en soulevant son pantin au-dessus de sa tête. Pendant ce temps, Franz l'avait observé sans rien dire. Quand soudain, il bondit vers Clara, lui arracha le casse-noisette, le jeta par terre et le piétina. Clara fondit en larmes.
« Mon pauvre pantin, pourquoi as-tu fait ça ?»
Oncle Johann traversa la pièce, amena Franz sans ménagement dans la pièce voisine. Clara pouvait entendre le grondait sévèrement. Tandis qu'elle se penchait pour ramasser son jouet, elle sourit alors à travers ses larmes.
« Cher petit casse-noisette, tu n'as rien de cassé ? Dieu merci !»
Puis elle se pelotonna sur le canapé et s'endormit, le pantin dans ses bras. Plus tard, dans la nuit, elle se réveilla et vit qu'elle était couchée dans son lit.
On m'a certainement porté dans ma chambre pendant mon sommeil, mais où est mon casse-noisette ? Il doit être tombé par terre, malheureux.
Aussi silencieusement qu'une souris, Clara enfila ses pantoufles et descendit au salon. La pendule sonna les 12 coups de minuit. Effrayée, la fillette traversa la pièce comme une flèche, sauta sur le canapé et se recroquevilla ses pieds sous sa chemise de nuit. Les flammes dansaient dans la cheminée et éclairaient la pièce. À ce moment, elle entendit des bruits de pas cadencés et vit surgir des bataillons de souris conduits par leur roi dont le regard cruel brillait dans l'ombre. Les yeux de Clara s'agrandirent de surprise quand à l'autre bout de la pièce, elle vit s'avancer des armées de soldats, des soldats de plomb de France. Et à leur tête, il y avait son courageux casse-noisette. La bataille s'engagea entre les souris et les soldats de plomb. Quelques moments plus tard, Clara vit que le roi des souris avait fait reculer le casse-noisette jusqu'au canapé où elle était assise.
Il faut que je l'aide,
pensa-t-elle. En un éclair, elle ôta sa pantoufle et la lança sur la souris qui tomba assommée. Le casse-noisette perdit l'équilibre et s'en cogna brutalement la tête. Des souris se précipitèrent pour transporter le roi en milieu sûr. Clara saisit le casse-noisette, mais à sa stupéfaction, se mit à grandir à vue d'œil pour se transformer en un beau jeune homme. Puis il ramassa la pantoufle de Clara, il lui déposa un baiser et lui tendit gracieusement.
« Tu m'as sauvé la vie ! Je ne l'oublierai jamais !»
lui dit-il en souriant.
« Qui es-tu ? »
fit Clara avec étonnement.
« Je suis le prince des casse-noisettes. Veux-tu venir visiter mon royaume ? C'est le royaume des sucreries. Jusqu'à ce jour, aucun être humain put y pénétrer. »«
Oh, emmène-moi là-bas, s'il te plaît. Mais comment fait-on pour y aller ?»
À peine avait-elle dit ces mots qu'un bateau accosta. Clara et le prince y montèrent et se mirent à voguer dans la nuit scintillante. Des flocons volaient en tourbillon tout autour d'eux. Mais Clara n'avait pas froid, elle était enveloppée d'une douce chaleur pareille à celle d'un édredon de plume. Ils arrivèrent enfin au palais du prince. Clara était émerveillée. C'était un palais en sucre bleu surmonté de tours roses. Les colonnes étaient en sucre d'orge et les chandeliers de dragées argentées brillaient de mille feux. Une très belle dame accueillit Clara comme une princesse.
« Je suis la fée Mirabelle et j'ai prévu toutes sortes de gâteries en ton honneur. »«
Suis-moi !»
dit le prince. Il conduisit Clara dans la salle de bal sur un trône de sucette à la main, incrusté de berlingots à l'anis.
« Assieds-toi !»
lui dit-il gentiment.
« Tu vas assister à un ballet. Toutes tes friandises préférées vont danser devant toi. »
Il sourit en posant son doigt sur ses lèvres et la musique se répandit dans la salle de bal. Le cœur de Clara se mit à bondir de joie quand un couple de danseurs fit son entrée au milieu de la salle. Somptueusement vêtus de velours marron, ils se mirent à virevolter devant Clara extasiée.
« Ce sont des chocolats, mes friandises préférées !»
chuchota-t-elle au prince. Une douzaine d'enfants aux costumes chatoyants, orange et jaune s'avancèrent en bondissant et en sautillant.
« Des sorbets à l'orange et au citron !»
s'écria Clara en applaudissant avec enthousiasme.
« J'adore ça !»
Vinrent ensuite deux jeunes garçons, très grands et très minces, tous de noir habillés, qui se mirent à zigzaguer devant elle de la façon la plus comique qui soit.
« Quant à ces deux-là, je les reconnais, ce sont des réglisses. Franz adore ça. »
Le prince prit alors la main de Clara pour l'inviter à danser la valse. Ils se mirent à tourner de plus en plus vite, si vite que le chandelier en dragée, le trône de sucette à la main, les murs en sucre glace se mirent à tourner aussi et se confondirent en un tourbillon de lumière.
« Je te réserve maintenant une merveilleuse surprise !»
dit le prince en raccompagnant Clara sur les marches du trône. On entendit alors le tintement léger d'une musique et la fée Mirabelle apparut au centre de la pièce et elle se mit à danser. Clara ne pouvait détacher ses yeux de cette danseuse féerique qui semblait flotter inlassablement comme un flocon de neige.
« Est-elle bien réelle ?»
se demanda Clara. Et en baissant les yeux, elle remarqua qu'elle tenait le casse-noisette dans sa main. Elle frotta ses paupières, se redressa et regarda autour d'elle. Le prince, la salle de bal et la fée Mirabelle avaient disparu. Elle se retrouvait dans son lit.
« Comme c'est étrange !»
pensa Clara en serrant le casse-noisette dans ses bras.
« Je me demande si je retournerai un jour au royaume des sucreries. »
Et elle sombra dans un profond sommeil.